t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Excellent début de week-end à tous et surtout merci d'être à l'écoute de ce dernier numéro de Parole aux auditeurs pour cette semaine. Le monde célèbre ce 9 décembre la journée mondiale de lutte contre la corruption. Selon l'organisation de l'ONU qui a instauré cette journée, la corruption freine le développement social et économique, accroît la pauvreté, affaiblit le système éducatif et le système de santé. En République démocratique du Congo, plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre ce fléau, notamment la mise en place de l'Observatoire de surveillance contre la corruption et de l'éthique professionnelle. Selon vous, quels seraient les préalables pour rendre la lutte contre la corruption efficace en République démocratique du Congo? Rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 15 ou au 099 70 64 969. Pierrot Elameji gère le standard. Il est également à la réalisation de ce magazine, mis en onde par Mimi Kindou et présenté par Nico Kalambay. Bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Encore une fois, merci d'être sur Radio Okapi. Nous recevons pour parler de ce thème, nous recevons donc Monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba. Il est donc président du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bienvenue à Parole aux auditeurs.
Merci et salut à tous les auditeurs.
Alors, je viens de le dire, vous êtes président du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Et comment le réseau des parlementaires africains compte-t-il lutter contre la corruption, étant donné qu'il y a eu d'autres structures avant, mais qui n'ont pas fait avancer la chose?
Merci beaucoup pour cette préoccupation qui doit essentiellement intéresser les communs de mortels. En tant qu'association, le réseau des parlementaires africains contre la corruption a ciblé des axes pour pouvoir entamer la lutte contre la corruption. Essentiellement, il y a le premier axe ou premier volet qui concerne la prévention et le deuxième volet qui concerne la répression. Vous allez vous rendre compte que le deuxième volet ne peut être matérialisé qu'avec le concours des instances judiciaires de la République. Par contre, la première partie de notre intervention, prévention, qui est essentiellement un rôle éducatif, qui est un rôle de sensibilisation, qui est un rôle de contact, vous allez vous rendre compte que le peuple qui subit les affres de la corruption, le peuple qui endure ou la population qui endure toutes les conséquences de ces fléaux ou des antivaleurs, c'est ce peuple-là en principe qui doit avoir l'information, la vraie information des causes qui l'entraîne à la souffrance et sans précédent.
Parlant des causes justement, je crois que il est important de d'abord connaître les causes de cette corruption avant de la combattre.
Bien, si je peux énumérer quelques aspects, vous allez vous rendre identifier d'où provient la corruption et pourquoi on l'entretient. Je dois vous dire par exemple actuellement dans notre pays, que ce soit dans le milieu public ou dans les entreprises, on vous parle, par exemple, des salaires impayés. Quelqu'un qui travaille du 1er au 30 et qui n'a pas son salaire. Je dois vous parler, par exemple, des réflexions qui sont menées ici et là aujourd'hui au niveau des entreprises publiques. Parce que c'est là aussi la cible de nos investigations. Vous avez des gens qui réfléchissent du matin au soir comment contourner la douane, comment contourner la DGI, comment ne pas payer la DGRAD et comment ne pas donner des salaires décents aux gens. Et c'est-à-dire, en contournant la DGI ou les régies financières de manière globale, on prive à l'État les moyens de son action.
Est-ce que vous ne pensez pas donc que si ces gens restent impunis, cela constitue encore une fois à renforcer.
C'est exactement ce qui fait l'objet de la naissance ou de la création du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Nous, en tant que parlementaires, nous avons pensé que, en vertu du pouvoir nous reconnu par les textes de loi, nous avons pensé que nous avons un micro à l'Assemblée nationale et nous avons un pouvoir politique qui nous permet de contrôler. Vous savez que l'article 100 de la Constitution nous demande de légiférer et de contrôler. Et vous vous rendrez compte que on légifère. Il y a beaucoup de textes de loi, mais le vrai problème dans ce pays, c'est l'application des textes de loi. C'est la sanction qui doit arriver après avoir exécuté un contrôle. Monsieur le journaliste, vous le savez très bien que la sanction peut être positive ou négative. Et ce qu'il faut, quand on a fini un contrôle, celui qui a bien fait, il doit être encouragé. Et celui qui n'a pas bien fait, c'est une orange pourrie, on doit l'extirper du panier pour que les autres oranges ne soient pas infectées. Mais nous assistons dans notre pays à ce spectacle malheureux qui fait que chaque fois qu'on a fait un contrôle, les conclusions, les recommandations de l'Assemblée nationale sont gardées dans des tiroirs. Comme qui dirait, chasser les naturels.
Il revient au galop.
Il revient au galop.
Voilà.
Et donc, c'est là la faiblesse. La faiblesse des institutions. Vous avez suivi dernièrement, parce que demain, ce sera la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Nous avons invité les personnalités des marques, comme le ministre d'État à la justice, le procureur général de la République, les responsables de la police et des services. Parce que l'on ne peut pas lutter contre la corruption si ces instruments dont dispose l'État ne font pas leur travail. Parce que je m'en vais vite vous dire que vous avez suivi, vous comme moi, que M. Luzolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État, il est descendu à deux reprises, tambour battant, auprès du procureur général de la République, déposer ce qu'on appelle la dénonciation présidentielle. Et aujourd'hui, depuis que M. Luzolo Bambi, n'oubliez pas que M. Luzolo Bambi est au sommet du pouvoir.
Oui.
Il est à côté du soleil. Et c'est là où l'article 69 donne le pouvoir de régenter
et
la
République. Et depuis qu'il a fait son rapport, rien n'a été fait.
Voilà, jusqu'à la date d'aujourd'hui. Moi qui vous parle ici, en tant que président du réseau, je suis passé même pour poser la question, en tant que réseau, au procureur général de la République. Où en sommes-nous avec la dénonciation présidentielle? Vous savez, nous
et
avons...
Et quelle a été la réponse?
Nous avons fait 2 heures dans le cabinet du procureur général. Sans être reçu.
Merci.
Voilà.
Merci, merci, Monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba. Continuez à nous appeler au 081-890-63-15, 099-70-64-969.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa. Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Nous allons ouvrir notre standard tout de suite avec Charles qui nous appelle de Kinshasa. Charles, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Bonjour.
Alors Charles, quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui pour essayer d'éradiquer ou de diminuer ce fléau, la corruption?
Merci pour la parole que vous m'accordez. Je tiens aussi à remercier la radio Kapi qui a mis cet instrument à notre portée, qui nous permet de pouvoir donner nos différentes contributions. Je crois que nous sommes en train de parler de la lutte contre la corruption, c'est vrai, mais nous devons d'abord savoir qu'est-ce qui est à la base de la corruption. Parce que si on n'arrive pas à savoir ce qui est à la base de la corruption, on ne saura pas lutter contre la corruption. À mon humble avis, je pense que la première chose, c'est manque d'éducation de base. La personne qui a été bien éduquée dès sa base n'aura pas les problèmes de la corruption. Nous avons vu aussi à l'époque à l'église catholique, il y avait le cours, par exemple, de la morale, la religion, qu'on a élagué aujourd'hui. Deuxième élément, il y a aussi les problèmes de la misère qui est en train de gangréner notre société. Alors, vu tout ce qui se passe, la personne n'a pas eu le direction des bases, la personne n'est pas bien payée, il y a la misère. Ce sont des facteurs qui font en sorte qu'il y ait l'installation de la corruption dans notre pays. Maintenant, de deux, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions lutter contre la corruption? Ce que nous devons faire, donner d'abord du travail aux gens. Les gens doivent bien travailler. Deuxièmement, donner aussi un salaire décent et à temps. Je souligne bien, parce qu'on peut payer les gens, mais on ne paye pas à temps. C'est ce qui pose aussi problème. Troisièmement aussi, à part les salaires, nous devons, ce que nous devons faire dans notre pays, nous devons tout faire pour que les lois en matière de la lutte contre la corruption soient vulgarisées. Lorsqu'on vulgarise les lois, à ce moment-là, les gens auront peur. Ils sauront que dès que je commets la corruption, je serai frappé par telle loi. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est que nous avons constaté que les lois ne sont pas vulgarisées, c'est pourquoi les gens font n'importe quoi.
Oui, monsieur Charles. Monsieur Charles.
Oui.
Notre invité pense, lui, que même lorsque les lois sont vulgarisées et qu'il y a l'impunité, la corruption va continuer à gangréner à la société congolaise. Vous ne voyez pas les choses de la même façon que lui?
Oui, tout à fait. Il a raison, je peux voir la chose de la même façon que lui, mais il y a aussi l'autorité qui doit s'impliquer normalement, comme l'a dit mon prédécesseur. Nous avons des lois qui ont été déjà prises aussi dans notre pays, bien évidemment, mais l'implication de l'autorité, on ne le voit pas. Si je prends l'exemple, par exemple, l'autorité morale de l'AMP qui avait dit que les portes de la prison sont ouvertes. Mmh. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui sont déjà entrés dans cette prison?
Voilà, la question reste posée. Merci Charles de nous avoir appelé de Kinshasa. Charles, on retient donc que vous avez essayé d'énumérer les causes de la corruption. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'éducation de base, vous avez également parlé de la misère et vous avez essayé de proposer quelques pistes de solutions pour mettre fin à la corruption. Vous avez parlé du travail, donc on doit créer des emplois et on doit donner un salaire décent et à temps. Vous avez insisté et les lois de la République doivent être vulgarisé. Merci Charles. Nous allons rejoindre Eric qui nous attend à Kikwit. Eric, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio Capi.
Alors, Eric, quel est votre point de vue?
Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Moi, je me réunis, avant d'aborder, avant de parler même de la corruption, je me réunis commencer par les causes qui font que la corruption puisse persister. Mmh. Moi, je pense, je vais vous donner un exemple. Mmh. À l'époque de M. Moïse Laura Désiré Kabila, je pense bien, quand il est venu au pouvoir, il punissait tout le monde. Mmh. Que ce soit les ministres, les députés, les directeurs généraux, les secrétaires, tout le monde. Quand tu commets une infraction, tu es puni, tu es arrêté. Mmh. Mais aujourd'hui, c'est l'impunité. Personne n'arrête personne. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Alors, comment voulez-vous que le pays puisse changer dans un pays où il n'y a pas de punition, on ne punit personne? Alors, comment voulez-vous que la corruption puisse prendre effet? Alors, je parlerai encore de la situation que vivent les fonctionnaires. Mmh. Les fonctionnaires aujourd'hui, ils sont payés maigrement. Regardez un peu le salaire des députés. C'est plus de 14 000 dollars. Un ministre touche plus de 14 000 dollars. Mais un fonctionnaire de l'État touche combien? C'est nous qui vous avons voté. Mais comment est-ce que vous pouvez éteindre à vous, les députés, les sénateurs, les ministres, tout le monde? Vous pensez que vous allez toujours prospérer dans ce pouvoir? Non! Il y aura la fin, je vous assure, il y aura la fin. Voilà. Moi, je vous recommanderais de diminuer un peu vos salaires, vous, les députés, les sénateurs. Si les députés touchent 14 000 dollars, qui divise son salaire par deux, alors ce qui va rester, on essaie un peu de compenser dans les salaires des fonctionnaires.
Voilà, merci.
Comment voulez-vous que la corruption puisse prendre effet? Ok, il y a le déséquilibre social. Il n'y aura ni la paix, ni fin de la corruption. Il y aura toujours des choses comme ça, mon frère, monsieur le journaliste.
Voilà, merci beaucoup Eric. On retient donc que vous avez insisté sur les sanctions. Hein, si on ne légifère pas, vous pensez donc que la corruption va continuer, elle va être encore plus grave, et vous donnez une proposition comme ça, vous demandez à ce qu'on revoie à la baisse le salaire des députés parce qu'il n'y a pas partage équitable des biens. Ça, c'est selon vous. Eric, vous nous appeliez de Kikwit. Merci à Elie qui se trouve en Bandaka. Elie, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Et bonjour Radio Capi.
Alors,
salut tout le monde.
Elie, est-ce que vous pensez, comme Charles et comme Eric, que aussi longtemps qu'on ne sanctionne pas les auteurs de la corruption va encore une fois continuer à gangréner la société congolaise?
Oui, merci. Je salue d'abord les déclarations de mes prédécesseurs. À mon avis, la meilleure façon de militer contre la corruption et tout ce qui est lié à la mauvaise gouvernance en RDC, à mon avis, il faut un changement de mentalité par le processus de l'éducation civique, comme a dit mon ami intervenant, et aussi le respect au principe de la justice sociale et la distribution des biens et services de manière équitable.
Ouais.
Et donc, ça, c'est des rangs sociaux. En plus, les rajeunissements et changements du système de gestion dans toutes les institutions de la République. Parce que nous avons suspecté, vous conviendrez avec moi, que la plupart des institutions de la République sont corruptibles et corrupteurs. Donc, ce que vous devez aussi dire, c'est notre institution, dite le président de la République, à mon avis, en l'occurrence, d'Albert Jouna, très proche du président Kabila, avait assuré en 2015 que les partenariats qui étaient dans la gestion de ces camions, l'entreprise congolaise, celle-ci indique, les centres 4 a généré des revenus qui ont atteint en moyenne 262 millions de dollars par an. Tous ces argents, 50% étaient revenus en plus dans les prisons publiques, et les 87% étaient volatilisés par la famille kabiliste. C'était un rapport qui a été publié par une agence américaine.
Voilà, un peu rapidement. La même situation de corruption. Un peu rapidement, Joseph.
Qui a été publié, vous conviendrez avec moi, dans une agence que nous appelons Global Witness, qui avait publié qu'il y avait des détournements à la corruption au sein des institutions, et par exemple la GECAMI. Mais nous avons aussi regretté, nous avons entendu que les conseillers du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption avaient publié son rapport sur le dossier de la corruption, les détournements, le blanchiment d'argent, la volatilisation des fonds publics et tous les présumés auteurs qui avaient volé cet argent, détourné les fonds publics, ils pouvaient être comparés devant la justice. Donc lui-même, le conseiller du chef de l'État, avait saisi la justice, avait saisi le parquet des grandes instances pour traduire en justice toutes ces personnes, et jusqu'alors personne n'a été traduit. Et donc, à mon avis, je reviens pour soutenir l'idée de notre invité, parce que nous devons tous condamner cette mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance de nos...
Voilà. Voilà donc notre ami Elie de Mbandaka revient encore une fois sur ce que nous avons dit précédemment. Il insiste sur le changement de mentalité. Donc la population doit être formée pour changer de mentalité, mais également la distribution équitable des biens. Donc ces deux choses continuent à renforcer la corruption en RDC. Nous allons revenir à notre invité dans quelques instants, mais nous allons tout de suite accueillir Joseph qui nous écoute à Lubumbashi. Joseph, bonjour et bienvenue à Radio Okapi.
Bonjour Jody, merci beaucoup pour la présentation de cette émission. Nous te reconnaissons toujours dans la musique. Aujourd'hui, on est très heureux de t'avoir aux antennes.
Merci. Merci beaucoup, c'est pas Jody, c'est Nico, merci de corriger. Alors, Joseph...
Nico, voilà. Kalambay, ok.
Joseph,
Nico.
Joseph, vous avez laissé un message sur notre page Facebook et vous dites qu'il faut commencer par mettre les fonctionnaires et autres dans des bonnes conditions en RDC. Il y a une injustice qui ne dit pas son nom. Vous parlez et vous donnez l'exemple d'un officier militaire qui a un très bon solde, plus les avantages avec les comptes, mais les soldats de rang n'ont rien.
En fait, je ne suis pas l'auteur de ce message, il y a plusieurs Joseph.
Ah d'accord. Alors, il s'agissait donc de Joseph Kazadi. Merci.
Ouais. Alors, Nico, le problème, c'est quoi? D'abord, comme l'invité l'a dit, la corruption, il n'y a pas une justification. Donc, l'auteur, celui qui est corruptible, n'a pas assez justifié pourquoi il est corruptible. La corruption, c'est une anti-valeur. C'est quelque chose que nous devons combattre. Regarde les conséquences lorsque nos agents se laissent à la corruption. Alors, on a le grand-père, quand il vieillit, l'État n'a pas de l'argent pour prendre soin de son grand-père quand il est retraité. On a des hôpitaux qui n'ont pas approvisionné en intrant médical. Tout ça, ce sont là le cause de la corruption. Et donc la corruption, quelles que soient les conditions dans lesquelles quelqu'un peut travailler, il n'a pas raison de se laisser corrompre. Alors, quelles sont les causes de la corruption? J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de raison, mais le cause, c'est ce que les autres auditeurs venaient de dire tout à l'heure. Malheureusement, il y a des gens, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous allez la mettre, des conditions de travail, parce que ici dans le pays, vous vous rendez compte, peut-être que ce ne sont pas les petits fonctionnaires de l'État qui sont corruptibles, par contre, ce sont ceux qui ont des salaires qu'on ne connaît jamais par le commun du mortel. Malheureusement, ce sont ceux qui tombent dans la corruption.
Donc, vous pensez que la corruption...
Il y a aussi la justice, hein, comme les autres l'ont dit, Nico, je termine par là, la justice. Les gens doivent savoir, lorsque je suis attrapé dans la corruption, il y a la prison qui m'attend, et les sanctions doivent être sévères, et les exemples doivent être comment? Doivent commencer par le sommet. Alors, lorsque quelqu'un, il n'y a pas d'exemple... qui lui montre que quand je tombe dans la corruption, voici le sort qui m'attend, alors cette personne va s'enfoncer dans cette pratique, malheureusement, qui cause beaucoup de dégâts à l'État, et voilà les causes. Aujourd'hui, on a la pauvreté, tout simplement, parce que ceux qui sont censés récolter les recettes de l'État, malheureusement, la plupart n'ont pas d'éthique, et la plupart qui se disent même chrétiens, tombe dans la corruption, alors que la Bible condamne fortement cette mauvaise pratique qui est une anti-valeur.
Voilà. Merci beaucoup, Joseph de Lubumbashi. On retient de vous que vous avez souligné quelque chose de très important. Vous pensez que ceux qui sont censés punir les corrupts, ceux qui ont corrompu, ce sont eux-mêmes qui se livrent à la corruption et par conséquent, ceux qui se fondent ou qui corrompent ne seront pas sanctionnés parce qu'on a parlé de la sanction avant. 0-89-70-64-969 ou 0-81-890-63-15. Professeur Mwendambali, gardez la ligne, nous vous prenons dans quelques instants.
Un jour, une histoire. Un magazine sur l'histoire du Congo. Revivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez les personnages et acteurs de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez Kéline Kouté et toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion, le dimanche à 20h30, le mercredi à 14h15.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je vous rappelle que nous essayons de trouver des solutions par rapport à la corruption qui gangrène la société congolaise et africaine. Vous le savez sûrement, le monde célèbre demain 9 décembre la journée mondiale de lutte contre la corruption et nous recevons monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba qui est avec nous dans ce studio. Monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba, vous avez suivi la première série des auditeurs qui insiste sur la sanction. Donc, on a beau dénoncer ceux qui ont corrompu ou ceux qui ont été corrompus, mais si la sanction ne suit pas, rien ne sera fait.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous le constatez, heureusement qu'ils m'ont rejoint et que j'ai commencé par là, parce que ça fait aujourd'hui 2 ans que notre réseau existe, que nous avons commencé à dénoncer, que nous avons continué parce que les autres organisations avaient déjà commencé la dénonciation. Mais la différence chez nous, c'est que nous avons ciblé les institutions de la République.
Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté? Parce que c'est important. Vous allez dénoncer, mais lorsque on ne vous écoute pas, je crois que vous allez continuer à dénoncer.
Je dois vous dire, si on corrompt le matin et que je suis au courant, à midi, je dénonce. Mmh. Même si on ne sanctionne pas, même si on ne fait rien, nous allons continuer à dénoncer, nous continuerons, nous taperons très très fort jusqu'à ce que les corrupteurs et les corrompus prennent conscience du danger qui guette la République démocratique du Congo. J'ai suivi les différents intervenants. Ils m'ont rejoint dans le sens de l'éducation, dans le sens de la pauvreté, et certains même ont soutenu la sanction. Mais le vrai problème, qui doit sanctionner? C'est ça la question fondamentale. Parce que nous avons un pays qui est organisé et qui a des institutions. Moi, je pense que nous devons maintenant nous tourner vers ceux qui doivent sanctionner. Ce sont ceux-là, en principe, qui sont les grands des institutions. Ce sont ceux-là qui doivent entreprendre des actions. Pourquoi nous dénonçons? C'est plutôt tout simplement pour réveiller la conscience. Mmh. Il s'agit de la conscience individuelle et de la conscience collective. Pour que nous puissions résoudre le problème, en marge de la volonté politique, parce que le premier intervenant a parlé de l'éducation, mmh. Je pense que si tout le monde se rend compte que l'origine actuellement de notre misère, c'est la corruption qui se manifeste à travers la mauvaise gouvernance. Une fois que nous ciblons le danger et que les uns et les autres décident tout simplement de changer de comportement, mmh. C'est un problème comportemental, c'est un état d'esprit. Et ce changement de comportement doit être accompagné par la justice. C'est pourquoi la justice... Et on le dit souvent, mmh. que c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice, et d'ailleurs la crainte de la sanction est le commencement de la bonne gouvernance.
Mais lorsque cette même justice est corrompue?
Exactement. C'est pour cette raison que nous disons maintenant, nous devons restaurer l'homme. Mmh. Vous avez suivi le ministre de la Justice qui a parlé des 3V. Mmh. Et il est question maintenant que au sein de cette même justice, je ne dirais pas que tout le monde est corrompu, mmh. il y a des hommes sérieux dans cette justice, intègres, et donnez-leur la tâche de contrôler leurs collègues en procédant par l'éducation, par la sensibilisation et en sanctionnant. Parce que si on finit par la sanction, monsieur le journaliste, je vais vous donner un exemple d'un cas de corruption. Mmh. Imaginez que la justice, elle, qui est censée nous aider à résoudre, se laisse corrompre et qu'on arrête un magistrat. Et qu'on les traduise en justice par ceux qui sont intègres. Et qu'on les juge sur la place publique. Et qu'on l'arrête, qu'on les condamne, qu'on les mette en prison. Et qu'il restitue les biens volés.
Je crois que ça sera
vous
le
pensez
début.
Que les autres magistrats vont commencer encore à accepter la corruption?
Non. Alors,
la solution est simple.
Oui.
C'est l'application. L'application de la loi.
On revient à vous, monsieur Jean-Pierre Passy Zapamba. Juste le temps pour nous de prendre en ligne en ce moment un autre intervenant. Donc, c'est le professeur Mwenda Mbali qui nous écoute à Kinshasa. Professeur, bonjour.
Bonjour Kiro, bonjour auditeurs et auditrices de Radio Capi.
Alors professeur, votre structure a pris des mesures pour lutter contre le fléau, notamment la mise en place de l'Observatoire de surveillance contre la corruption et l'éthique professionnelle. Parlez-nous-en un peu.
Bon, pour parler d'un état des lieux, et ça remonte en 2001. À peine que le président de la République a accédé à la magistrature suprême, de la mort de son défunt père, il s'est déplacé un mois après auprès des institutions de Bretton Woods à Washington et à New York pour demander que le bailleur puisse nous accompagner dans la refondation de la République et surtout dans la réforme de notre administration, qui était trop ravagée par les pratiques de corruption. Et là,
les Bayerns ne sont pas passés par quatre chemins. Ils ont dit, nous sommes prêts à vous fournir tout ce que vous allez demander. Mais on n'est pas certain que cet argent puisse servir au développement du pays. Mmh. Parce que généralement chez vous, on sait quand on reçoit de l'argent, 90% on met dans sa poche, et c'est 20% seulement qu'on donne pour servir aux besoins de l'État. Mmh. Alors là, c'est engagé une discussion. On a dit au président, nous sommes prêts à vous remettre une enveloppe importante pour orienter la réforme de l'administration publique, à condition que vous puissiez nous signer une décharge montrant qu'au cas de détournement ou en cas de détournement, c'est vous le président que nous allons poursuivre. Mmh. Et devant ces problèmes, devant ces dilemmes, le président a dit, écoutez, je suis la conscience du président de la République, mais je ne peux pas me substituer à la conscience collective de ma population. Je suis d'accord, je vous propose en contrepartie d'élaborer un code de conduite de l'agent public et de l'État, mmh, de manière à pouvoir atténuer le taux de pénétration de la corruption auprès de ces agents et dans les institutions de l'État, et je mettrai en place une structure, un service qui va s'occuper essentiellement de la surveillance de la corruption en passant par l'intériorisation des valeurs éthiques.
Oui, professeur.
C'est comme ça que l'OCEP est né. Mmh. Il faut comprendre dans quel contexte l'OCEP est né. Oui. Si on a libéré les fonds pour administrer, pour diligenter la réforme de l'administration, mmh, et dans d'autres secteurs, c'était une des conditionnalités. Mmh. Alors maintenant, les bailleurs m'ont mis à notre disposition ce qu'il fallait mettre à notre disposition. Mais les problèmes se posent encore. Est-ce que nous avons réduit les quelques centimètres les taux de pénétration de la corruption dans les tissus socio-économiques de notre pays? Mon service s'est attelé d'abord, dans la première étape, à vulgariser les agents publics de l'État, à les sensibiliser, mmh, de manière qu'ils puissent abandonner ce genre de comportement. Quelques-uns ont montré quand même une certaine évolution. Ils ont déployé un certain nombre d'efforts. Il est vrai, des agents ont pris conscience qu'il faut être à temps de travail, qu'il faut 8 heures de travail et pas 8 heures au travail. Certaines personnes ont intériorisé ce type de valeur.
Oui, professeur Mouindambali. Professeur Mouindambali, à vous entendre parler, il y a quand même des avancées qui ont été enregistrées depuis que votre structure est née.
La première avancée est la suivante. Dès que nous avons buté à une certaine résistance de la part d'une classe de certaines catégories d'agents publics et de l'État, nous avons fait les rapports acquis des droits à l'autorité concernée. Il a accepté de transformer immédiatement l'observatoire qui était là pour des questions d'éthique et de comportement en observatoire de surveillance. Donc, en sus de ses missions, de revaloriser les valeurs républicaines, les valeurs citoyennes, il faut adjoindre à ce service des nouvelles missions, notamment la surveillance de la corruption. Et c'est dans ce sens qu'on a formé des OPJ, 21 OPJ, qui bénéficient du statut d'OPJ à compétence générale, ce qu'on n'avait pas au départ. Et c'est dans ce sens que le gouvernement de l'ancien Premier ministre Matata avait signé un pacte anticorruption avec la société civile et le monde des affaires.
Voilà.
Et c'est dans ce sens encore dernièrement qu'on a procédé à la déclaration, à la réception des déclarations des avoirs des mandataires des entreprises publiques et du portefeuille. Vous voyez quand même qu'il y a des avancées, mais ça ne suffit pas.
Voilà. Merci, professeur Mouindambali, pour cette mise au point. Alors, on va découvrir les messages sur notre page Facebook. Alain Bolojoa pense que l'État, en tant que superstructure, est un gigasystème qui doit impérativement fonctionner selon un ensemble des normes. Le phénomène social corruption est une déviation et il est à la base du dysfonctionnement systématique. Elle empêche la distribution égalitaire des atouts dont dispose l'État. Elle est le fait qu'un individu ou groupe d'individus tente détournent ou détournent les agents commis aux tâches de collectivité pour les intérêts individualistes. Joseph Kazadi dit que lutter contre la corruption, c'est une chose, mais il y a des mécanismes qu'il faut mettre en place pour rendre cette lutte plus efficace. Commencer par mettre les fonctionnaires et autres dans des bonnes conditions, et pour avoir les avantages, il faut être dans les circuits des autres officiers. L'impunité, où est partie la tolérance zéro? Il se pose cette question. Divine nous écoute et pense qu'il faut lutter contre, pour lutter contre la corruption, il faut qu'il y ait un salaire qui convient et répond aux besoins des autorités scolaires et universitaires. Nous allons prendre Père Jean Lombo qui nous écoute à Boma. Père Jean Lombo, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Capi, bonjour chers auditeurs.
Alors,
intervenir par rapport à la question de la corruption parce que lorsque l'État avait prononcé dernièrement un discours dans les années antérieures et fini la récréation, mais nous sommes en train d'observer que la récréation continue parce que il y a plusieurs rapports qui sont publiés par à la corruption. Et je comprends que c'est tout simplement un problème pour les institutions qui sont mises en place. Réellement, ces institutions dénoncent. Mais la faiblesse est au niveau du système politique qui se trouve dans notre pays, qui ne permet pas l'efficacité de ces institutions. Lorsque ceux qui dénoncent la corruption dénoncent, et ils sont parfois traqués, intimidés par ceux qui détiennent le pouvoir, ce qui est en train, en fait, dans la République, d'affaiblir, n'est-ce pas, cette histoire de la lutte anti-corruption. Pour comprendre qu'un rapport qui est publié par rapport à la situation est que ces gens qui sont dénoncés, ils ne sont jamais inquiétés et ils ne sont jamais poursuivis, pas en justice et consorts. Et lorsque nous voyons des histoires de la politique se mêlent dans les marchés où les gens cherchent, je ne sais pas moi, obtenir quelque chose pour l'intérêt de la nation, ces gens sont directement poursuivis. Sont arrêtés. Et puis, à ce moment-là, vous apprendrez que les ministères publics et consorts, à ce moment-là, ils vous disent, ils peuvent se saisir même par une moindre information. Mais pour les distorsions, à ce moment-là, les ministères publics, même c'était. Donc, c'est pour vous dire que le système politique est trop mauvais dans notre pays. C'est à partir de ça qu'il faudrait, n'est-ce pas, faire beaucoup de réformations et de séances d'éducation civique.
Voilà, merci. Merci, Père Jean Lombo. Vous nous appeliez de Boma et vous pensez donc que ce qui renforce la corruption aujourd'hui, c'est le fait que ceux qui dénoncent cette corruption sont traqués par les corrupteurs et ça renforce vraiment la corruption. Nous allons nous rendre à Boston à l'instant où nous attend Madame Joséphine. Bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Bonjour Nico. Je te remercie de m'avoir passé la parole. Moi, je vais dire ceci. Une solution spontanée. Maintenant, là, je vais aller avec une solution des pyramides, oui. Pyramides renversées. Les gens qui sont dans des prisons maintenant, même ceux-là qui étaient libérés, c'était des petits voleurs de téléphone, c'était les petits voleurs du marché, c'était des petits voleurs d'ici par là. Mais les gens qui détournent des milliers et des milliers de dollars, ils sont là au rebois. Bon, je peux te donner un exemple. Quelqu'un qui vient d'être nommé ministre, il n'avait rien. Devant tout le monde, il n'avait rien. D'un coup, dans moins de deux mois, il se retrouve avec des véhicules, des maisons parties par là. C'est ça la corruption. Il faut remplacer les gens qui sont dans les prisons, les petits peuples-là, qui volent dans les marchés, de remplacer avec les gens qui détournent des gros montants. Lui, le président lui-même, il s'est plaint auprès de Hillary Clinton. C'est dans le livre d'Hillary Clinton qu'on est en train de détourner les salaires. C'est pour ça que Hillary Clinton a dit, non, il faut créer le système des cartes de crédit, là où vous pouvez transférer l'argent. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, on ne voit personne. Le gouvernement n'a jamais, au grand jamais, arrêté les grands voleurs. c'est ça la corruption. Mmh. Nos mamans, on connaît nos mamans. Nos mamans ont des valeurs. Les mamans à la maison, elles enseignent, elles apprennent à leurs enfants de ne pas voler. Là, c'est déjà passé. Mais nous devons renverser le pyramide. Dès aujourd'hui, si le gouvernement, au moins, prépare d'abord les gens qui sont dans le gouvernement, les arrêter devant tout le monde, on les fait passer dans des radios, on les fait passer à la télévision, qu'il a volé avec le prince. C'est fini. Et vous voilà. Allez voir que tout va se renverser.
Madame Joséphine, merci. Donc, oui, on a donc compris, vous avez, comme les autres, insisté sur la sanction. Aussi longtemps qu'il y a absence de sanction, la corruption va donc continuer. Alors, avant de prendre Gaston qui nous écoute à Kinshasa et Bintou à Kimpese, je vais revenir dans ce studio pour poser juste une petite question à notre invité. La République démocratique du Congo occupait en début de cette année la 156e place sur les 177 pays dans le rapport sur la perception de la corruption dans le monde publié par l'ONG Transparency International. Et est-ce que, parce que nous terminons l'année, vous pensez qu'il y a quelque chose qui a changé et que si jamais il y avait un autre rapport, la RDC va avoir une bonne place?
Aujourd'hui, qu'on soit 156e ou 140e, ce n'est pas là le problème. Mmh. Le vrai problème aujourd'hui demeure dans la volonté politique d'accompagner les peuples congolais à aimer son pays par le changement de comportement. Et le premier intervenant a parlé d'un problème d'éducation. Oui. Et moi, j'ajoute que c'est un problème de comportement. C'est un état d'esprit. Nous n'avons que ce seul pays. Imaginez un peu la petite île qu'on appelle île Maurice, mm-hmm, qui a mis tout simplement de la discipline dans la gestion tout simplement des deniers publics. Mais aujourd'hui, cette petite île-là attire les investisseurs de tout le monde entier. Ils y arrivent pour accompagner cette petite île à se placer maintenant à l'échelon mondial pour concurrencer les grands pays. Mmh. Et le grand Congo, imaginez un peu qu'on dise aujourd'hui, nous faisons table rase du passé et qu'à dater d'aujourd'hui, 17 juin, tout celui qui sera susceptible de faire de corruption, on lui coupe la main. C'est très fort que je parle de la main coupée parce que peur. Les droits de l'homme vont intervenir.
Oui.
On lui coupe la main. C'est-à-dire, je parle d'une sanction extrême.
Oui.
Et cette sanction exemplaire, publiée dans vos médias, publiée à la télévision, sur la place publique, pour dire que l'option a été levée. Pas un seul corrompu en République démocratique du Congo, pas un seul corrupteur à partir du 7 décembre. Et que tous les avoirs doivent être orientés vers les comptes du Trésor. Mmh. Et que la gouvernance s'y mêle en assurant une distribution équitable du revenu national. Je vous jure que la manne ne va pas tomber du ciel. C'est un problème de volonté politique. C'est un problème d'application rigoureuse des textes qui nous régissent et de demain. On peut corriger.
Mais vous ne pensez pas que la pauvreté aussi est à la base de la corruption aujourd'hui?
Donc, la pauvreté a été créée par la mauvaise gouvernance.
Alors le problème, c'est que je veux juste vous donner un exemple. Quelqu'un qui est super mal payé, et cette personne, on ne va pas lui demander d'être un ange. Alors
non,
qu'il
mais dans des... quand on lui assure que tu as un salaire de 50 000 et qu'à la fin du mois, à la date convenue, au moment convenu, il a ses 50 000. Il va abandonner ce qu'il fait et il va consacrer sa vie à obtenir d'abord les 50 000. Et lorsqu'il va payer l'impôt et que tout le monde va contribuer et que les recettes vont accroître dans le compte du Trésor et qu'on va en assurer encore une répartition, il passera de 50 000 à 60 000 et de 60 000 à 70 000.
Voilà.
C'est comme notre ami Joseph, je crois, qui a parlé du petit fonctionnaire, contrairement à la grande corruption qui est exécutée par les autorités publiques. Je vous dis que cette petite corruption est parfois plus dangereuse également que la grande corruption. Mmh. Imaginez un peu, nous sommes 80 millions d'habitants et qu'il y a seulement 10 000 qui pratiquent la grande corruption et que les 80 millions autres pratiquent la petite corruption. À supposer que chacun détourne par jour 1000 francs congolais. Multipliez ça par 80. Ça vous fait combien de milliards par jour? Et donc, la corruption, qu'elle soit petite ou grande,
elle s'appelle corruption.
C'est une corruption,
voilà.
C'est un fléau, c'est un crime contre l'humanité. Tout le monde doit avoir à l'esprit d'abandonner la corruption.
On revient à vous pour conclure cette émission. On va d'abord rejoindre Gaston qui nous écoute à Kinshasa. Gaston, bonjour et bienvenue à Parole aux auditeurs.
Merci Nico, je vous salue aussi.
Gaston, quel est votre point de vue?
Bon, j'allais dire que c'est une habitude hein, qu'on retrouve actuellement dans, je ne sais pas l'origine, la date que ça a commencé. Et là, je voulais aussi savoir si c'est un héritage que nous a laissé les colons ou nos ancêtres. Non, mais c'est une habitude que nous retrouvons dans la quasi-totalité, si je veux, au mieux dans la totalité de nos concitoyens. Et je pense que personne n'est vraiment épargné. Hein. Donc, la corruption, ça, c'est quoi? Donc, vous travaillez, dans le cas d'espèce, il y a un fonctionnaire, il y a un administré. Donc, vous travaillez en qualité d'un fonctionnaire ou agent de l'État. Et vous êtes payé pour les services que vous êtes en train de rendre. Mais au-delà de ces services-là, soit on vous propose des donations, on vous propose des choses, vous acceptez, soit vous-même vous demandez ces choses-là qui rentrent, qui soient satisfaites vos besoins privés. C'est ce qu'on appelle un peu la corruption qu'on retrouve vraiment partout, non seulement dans les chefs des fonctionnaires et agents de l'État, même dans les chefs des travailleurs, hein, des privés qui ont cette tendance-là. Nous-mêmes aussi, nous cultivons cela, nous qui partons vers ces gens-là, on voudrait un service. Non, papa, joie. Hein, le bilan qu'on a monté,
oui, Gaston, qu'est-ce qui...
non, c'est
qu'est-ce...
vraiment une habitude que je trouve vraiment.
Gaston, un peu rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont, selon vous, les solutions pour essayer de lutter contre la corruption? Rapidement, parce qu'il y a deux autres auditeurs qui attendent.
Bon, à part l'aspect de la rigueur de la loi qui doit être appliquée par les saints qui ne sont pas là parce que c'est là ces gens-là aussi qui sont corrompus, moi je propose qu'on puisse mettre les caméras de surveillance hein, parce qu'on a confiance à personne qui seront gérées par un saint s'il est là, le cas contraire c'est toujours les caméras de surveillance partout dans les locaux des administrations pour voir toutes les opérations qui se passent là-bas parce que sans cela vraiment la condition c'est quelque chose qui se passe en catimini, c'est difficile d'appréhender, surtout que les chefs actuellement attendent les recettes, soit l'argent qui sont récoltés pendant la journée.
Voilà, merci beaucoup Gaston. Donc vous proposez qu'il soit placé des caméras dans tous les bureaux, mais la corruption n'est pas que dans les bureaux, ben, c'est votre proposition. Alors Bintou, vous nous écoutez à Kimpese, bienvenue à Parole aux auditeurs. Un peu rapidement, vous avez une minute.
Merci beaucoup, merci pour la parole, mais bon, passons directement aux solutions. Je voudrais, avant de passer à mon intervention, de me poser une petite question au prof. Le détournement des fonds, l'écoulage des recettes, pour les différents des vols, oui, de la corruption et l'enrichissement illicite, où c'est la même chose.
Voilà.
Bon, maintenant, pour passer aux solutions, le problème de la corruption dans notre pays, c'est un problème d'homme et un problème de système. Un problème d'homme, pourquoi? Puisque, je vous donne un petit exemple à 1992, Étienne Tshisekedi dit premier ministre, il demande à tous ceux-là qui ont volé les biens de l'État de les ramener dans les 48 heures. Vous savez, la suite, après 48 heures, le palais du peuple était plein. Mais aujourd'hui, le bien de l'État, et que ce soit l'argent ou les matériels, ou tout ça a été détourné, mais il n'y a personne pour punir, ni personne pour contrôler. Un problème de système, puisque l'homme n'est pas mis en valeur. Donc la personne, pour y mettre fin, il faut vraiment mettre l'homme en valeur, ça veut dire encourager celui qui dénonce.
Voilà.
Par exemple, s'il y a quelqu'un qui dénonce une corruption comme ça s'est fait au Rwanda, quelqu'un qui est militaire, qu'on vient corrompre avec 50 dollars, il vous arrête, il vous amène chez l'État et l'État multiplie par 3 l'argent qu'on voulait vous donner.
Merci Bintou.
À ce moment-là, ça encourage les autres aussi à continuer à dénoncer. Et dans l'éducation, regardez à l'école primaire. Nous tous, on savait que quand un enfant réussit à l'école, c'est l'école qui devait primer l'enfant.
Merci beaucoup, Bintou. On a bien compris votre proposition. Vous voulez qu'on renforce la sanction. On va prendre le dernier intervenant, Cocasse. Vous nous écoutez à Kinshasa. En 45 secondes, quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour lutter contre la corruption? Rapidement.
La solution que je propose rapidement, c'est la remise en question général de toute la société. Parce
voilà.
Que je partirai rapidement par vous donner un exemple qui va emballer tout le monde.
Oui, rapidement.
Regardez une somme d'argent qui, communément, on appelle ici le suivi. Mmh. Le suivi, nous connaissons tous les contenus. c'est l'argent pour la corruption. Qui demande cet argent? C'est l'école, c'est l'université, les instituts. Et qui donne cet argent? Les parents, les magistrats, les avocats, les policiers, les pasteurs, toute la société. Donc, nous sommes tous impliqués.
Voilà. Merci beaucoup, Caucase de Kinshasa. Nous avons compris. Alors, nous allons conclure avec notre invité, M. Jean-Pierre Passy-Zapamba. En définitive, quelle est, selon vous, la meilleure solution pour éradiquer ou lutter contre la corruption en RDC?
C'est un problème d'éducation, c'est un problème de formation, c'est un problème d'information. Et lorsque tous nous connaissons les conséquences néfastes de la corruption, et il faut maintenant une volonté politique qui doit être accompagnée d'une sanction. Parce que l'homme étant pécheur, la sanction va lui permettre d'éviter de déborder. Parce que détournement, enrichissement illicite et tout ça, ça fait partie de l'adoucissement, n'est-ce pas, du terme corruption. Tout est corruption, et c'est un mal, il faudra à tout prix. Parce que dans notre pays, n'oubliez pas que la corruption, elle est plutôt efféminisée, banalisée, sacralisée, et on lui accorde des termes doux, ce qui fait que les gens s'y complaisent et croient que le petit revenu de la corruption peut améliorer leurs conditions de vie. Au contraire, nous nous tuons au jour le jour, nous tuons le pays. C'est la gouvernance qui doit être améliorée pour que tout le monde trouve son compte.
C'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Passy-Zapamba. Je rappelle que vous étiez notre invité. Nous allons terminer ce numéro de Parole aux auditeurs en recevant Pierrot Elamegi qui nous rejoint pour nous donner le thème de Parole aux auditeurs de lundi. Pierrot, bienvenue et bon début de week-end. Hein.
Merci, Nico. Le même souhait avec plaisir pour vous.
Alors, on se retrouve le lundi avec un autre thème.
Vous savez que le chef des missions diplomatiques des États-Unis, du Canada et de la Suisse en RDC appelle à la stricte mise en œuvre du calendrier électoral pour une élection présidentielle crédible et apaisée en 2018, car selon eux, l'annonce d'une date pour ces élections constitue une étape importante de la première passation de pouvoir pacifique et démocratique en République démocratique du Congo. Vous savez aussi, Nico, et dans ce même communiqué qu'ils ont rendu public les jeudis derniers, ces chefs d'émission se disent également préoccupés par le fait que la CENI se concentre sur l'utilisation d'un système de machines à voter qui pourrait gravement compromettre l'élection présidentielle si toutes les mesures ne sont pas prises. C'est autour de ça qu'on va se retrouver. Et qu'est-ce que les auditeurs de Radio Kapi pensent de cette prise de position de ces chefs d'émission diplomatiques?
Alors, nous avons un conseil que nous donnons toujours à nos auditeurs. Ce jour-là, qui commence à appeler à temps?
Ils peuvent appeler à partir de, c'est le lundi à 10h au 081-890-4969, mais peuvent également déposer sur le commentaire sur la page Facebook parce que ce sujet sera posté d'un moment à l'autre.
Et tu nous rassures également que cette émission sera sur le site dans quelques minutes.
www.radiocapi.net, vous pouvez la réécouter en podcasting.
Voilà, merci beaucoup Pierrot et Lamengi. Merci à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Kapi, d'avoir suivi ce numéro de Parole aux auditeurs qui se termine par ici. Mimi Kindou était à la mise en onde. Je suis Nico Kalambay et cette émission a été réalisée par Pierrot et Lamengi qui était également au standard. Rendez-vous lundi 11h de Kinshasa pour un autre numéro de Parole aux auditeurs. Excellent week-end à tous sur Radio Kapi.